Il n'est pas sûr qu'il meure, il n'est pas sûr, dit-elle.
Le nourrisson resta ainsi rigide, distendu et sombre, près de 2 minutes, qui parurent infinies. Puis, brusquement, il fut agité de secousses violentes, projetant la tête en tous sens. Les membres se retournaient. On n'eût jamais cru qu'une telle force pût parcourir un corps si chétif. La ventrière devait le serrer pour qu'il ne lui échappât. Le chapelain se signa, comme s'il était en présence d'une manifestation diabolique, et se mit à réciter les prières des agonisants. L'enfant grimaçait, bavait. Son aspect noirâtre avait disparu pour faire place à une pâleur glacée non moins effrayante. À un moment, il parut s'apaiser, urina sur la robe de la ventrière, et on le pensa sauvé. Puis, aussitôt, sa tête tomba, il devint mou, inerte, et cette fois chacun vraiment le jugea mort. « Il était grand temps de le baptiser, » dit le connétable. Philippe de Poitiers ôtait de ses mains les gouttes chaudes tombées des cierges. Et soudain, le petit cadavre agita les pieds, poussa quelques cris, faibles encore, mais plutôt joyeux, et ses lèvres s'animèrent d'un mouvement de succion. Le roi était en vie, et il voulait téter.
« Le démon s'est fort débattu avant de lui sortir du corps, » dit le chapelain. « Il n'est point fréquent, » expliqua la ventrière, « que les convulsions saisissent les enfants si tôt. C'est parce qu'il est venu avec les fers. Ça se voit parfois. Et puis le lait de la nourrice lui a manqué pendant plusieurs heures. »
Marie de Cressay se sentit coupable. « Si, au lieu de me disputer avec Madame de Bouville, j'étais accouru aussitôt, » pensa-t-elle. Nul, évidemment, n'aurait mis en cause l'immersion en eau froide, ni aucune des tares héréditaires, boiterie, démence, épilepsie, qui reparaissait assez régulièrement dans la famille.
« Croyez-vous qu'il est à souffrir d'autres accès ?» demanda Mao.
« C'est fort à craindre, madame, » répondit la ventrière. « On ne sait jamais quand va venir ce mal, ni comment il finit. »«
Le pauvre petit !» dit Mao bien fort.
On reporta le roi au château, et on se sépara sans joie. Philippe de Poitiers ne desserra pas les dents de tout le temps du retour. Rentré au palais, il laissa sa belle-mère le suivre et s'enfermer avec lui.
« Vous avez manqué de peu tout à l'heure d'être roi, mon fils !» lui dit-elle.
Philippe ne répondit pas.
« En vérité, après ce que nous avons vu, personne ne s'étonnerait si cet enfant mourait ces jours-ci » reprit-elle.
Le régent continuait de se taire.
« S'il venait à disparaître, vous seriez toutefois obligé d'attendre la majorité de Jeanne de Navarre. »« Nenni, ma mère, nenni !»
répondit vivement Philippe.
« Nous ne sommes plus liés dorénavant par le règlement de juillet. La succession de Louis est close. » C'est celle du petit Jean qui s'ouvrirait alors. Entre mon frère et moi, il y aurait eu un roi, et je serais héritier de mon neveu. »
Mao le regarda avec admiration. Il avait échafaudé cela pendant le baptême.
« Vous avez toujours rêvé d'être roi, Philippe, avouez-le, » dit-elle.
« Déjà, quand vous étiez enfant, vous cassiez des branches pour vous en faire des sceptres. »
Il releva un peu la tête et lui sourit, laissant un silence s'écouler, puis, redevenant grave,
« Savez-vous, ma mère, que la dame de Ferrienne a disparu d'Arras, et aussi les hommes que j'avais envoyés pour l'enlever et la mettre hors d'état de trop parler ? Il paraîtrait qu'elle est tenue secrètement en quelque château d'Artois, et l'on dit que vos barons là-bas s'en vantent. »
Mao se demanda ce que signifiait cet avertissement. Philippe voulait-il seulement la prévenir des dangers qu'elle courait, ou lui prouver qu'il prenait soin d'elle ? Était-ce manière de confirmer l'interdiction de jamais plus recourir au poison ? Ou bien au contraire, en faisant allusion à la fournisseuse, lui donnait-il à entendre qu'elle avait les mains libres ?
« De nouvelles convulsions pourraient bien l'emporter, » insista Mao.
« Laissons faire Dieu, ma mère. Laissons faire Dieu, » dit Philippe en rompant l'entretien.
« Laissez faire Dieu, ou me laissez faire moi, » pensa la comtesse d'Artois. « Il est prudent jusqu'à se garder de se souiller l'âme. » Mais il m'a bien comprise, c'est ce grognier de Bouville qui va me causer le plus de tracas. »
Dès cet instant, son imagination commença de travailler. Mao avait un crime en perspective, et que la future victime fût un nouveau-né lui excitait l'esprit autant que s'il se fût agi de l'adversaire le plus féroce. Elle entreprit une campagne soigneuse, perfide. Le roi n'était pas né viable, elle le disait à tout venant, et décrivait les larmes dans les yeux la pénible scène du baptême.
« Nous l'avons tous cru trépasser devant nous, et il s'en est fallu de bien peu que ce ne fût vrai. Demandez plutôt au connétable qui était là comme moi. Je n'ai jamais vu messire gaucher si fort pâlir. Chacun pourra juger d'ailleurs de la faiblesse du petit roi quand on le présentera à tous les barons, comme cela doit se faire. À savoir même s'il n'est pas déjà mort, et qu'on nous le cache. Car cette présentation tarde beaucoup, sans qu'on nous en donne la raison. Messire de Bouville, paraît-il, s'y oppose, parce que la malheureuse reine, Dieu la protège, serait au plus mal. Mais enfin, la reine n'est pas le roi.
Les familiers de Mao avaient charge de colporter ces propos. Les barons commencèrent à s'alarmer. En effet, pourquoi différait-on ainsi la présentation solennelle? Le baptême à la sauvette, les prétendues dérobades de Bouville, l'impénétrable silence maintenu autour de Vincennes, tout était marqué de mystère. Des rumeurs contradictoires circulaient. Le roi était infirme, et l'on ne voulait pas le montrer. Le comte de Valois l'avait enlevé secrètement pour le mettre en sûreté. La maladie de la reine, une feinte. La reine et son enfant voyageaient en ce moment vers Naples.
« S'il est mort, qu'on nous le dise !» murmuraient certains. « Le régent l'a fait disparaître !» assuraient d'autres.
« Qu'allez-vous chanter là? Le régent n'est point homme de cette sorte, mais il se défie de Valois.
Ce n'est point la régent, c'est Mao, elle prépare son forfait. S'il n'est même pas déjà accompli, elle répète trop fort que le roi ne peut vivre. »
Tandis qu'un mauvais vent passait à nouveau sur la cour, qu'on s'énervait en conjectures odieuses, en soupçons d'infamie dont chacun se sentait éclaboussé, le régent lui demeurait impénétrable. Il s'absorbait dans l'administration du royaume, et si l'on venait à lui parler de son neveu, il répondait « Flandre, Artois ou rentrée des impôts ». Au matin du 19 novembre, l'irritation montant, de nombreux barons et des maîtres au Parlement vinrent en délégation trouver Philippe et le prièrent avec force, le sommaire presque, de consentir à la présentation du roi. Ceux-ci, qui s'attendaient à une réponse négative ou dilatoire, avaient déjà dans l'œil une méchante lueur.